Let's all go to the lobby. 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 Bonjour, bienvenue à Radio Bouvet. Nous sommes le samedi 30 janvier, journée porte ouverte. Il est 10h10. Nous sommes en compagnie de Ali, Mélissa, Monsieur Sayouri et Madame Juvin pour une petite revue de presse matinale autour de l'information du jour. On va juste vous poser des questions sur ce que vous pensez de l'information. Alors, on a lu aujourd'hui dans les journaux un débat autour de cette femme qui est condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui était violent avec elle. Jacqueline Sauvage, c'est son nom. Beaucoup d'associations ont demandé la grâce présidentielle pour ce cas. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez entendu parler ou pas du tout ?
Non.
Pas du tout. Alors peut-être que tous les deux, vous en avez entendu parler.
Oui.
Que pensez-vous des articles que vous avez lus et puis du sujet en lui-même, quoi ? Est-ce que c'est difficile d'avoir un point de vue ou est-ce que pour vous, finalement, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table parce que c'est très important ?
Déjà, c'est un cas qu'il faut replacer dans son contexte. Là, on est dans un cas de violence conjugale qui ont duré pendant des années, avec également des cas d'inceste avec les enfants commis par un personnage visiblement manipulateur, qualifié de bourreau par les avocats, par les familles. Et récemment, l'une des filles de Madame Sauvage s'exprimait à la radio en expliquant qu'elle était soulagée que son père ne soit plus là. Donc on est vraiment les protagonistes de l'affaire ont rappelé que c'était pas un permis de tuer qui était demandé, mais que ça avait été une réponse désespérée à une situation abominable.
Oui, bien sûr que cette situation, elle mérite d'être discutée. Déjà sur le fait de la place de la grâce présidentielle, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais aussi sur la position qu'on doit avoir en France sur le soutien et l'accès à l'aide pour les femmes battues. Tous les jours, il y a une femme battue qui décède sous les coups de son mari. C'est donc un vrai problème de société. Madame Sauvage en est l'illustration parce qu'effectivement, à bout, après des années de violence, elle tue son mari dans une situation où effectivement les avocats précisent qu'elle n'est pas en légitime défense puisqu'elle ne tue pas au moment où il la frappe, mais elle tue à un moment où il a fini de la frapper, il est assis. Donc bien sûr que c'est complexe au niveau de la loi, de l'application de la loi. Il y a des vraies questions à se poser derrière sur comment améliorer la prise en charge de ces femmes battues pour éviter, bien entendu, que des choses comme ça se reproduisent et que 3 ou 4 femmes, je ne sais plus combien il y avait de filles, se retrouvent sous l'emprise d'un homme violent comme ça pendant des décennies.
Alors, le premier sujet qu'on aborde, il est un peu dur, hein. C'est un sujet qui est assez triste, assez violent. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous avez quel âge, Ali et Mélissa ?
Presque 18 ans.
Presque 18 ans. Alors, on va commencer, honneur aux dames. Mélissa, sur cette question-là, des femmes battues, de ce cas-là précisément que vous découvrez parce que vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous interpelle, vous ? Est-ce que vous comprenez qu'une grâce soit demandée auprès du président pour qu'elle n'aille pas en prison ? Quel est votre avis là-dessus ?
Bah moi, je trouve que si elle est arrivée à un point à tuer son mari, c'est vraiment qu'elle devait être à bout.
À bout.
Ouais, elle devait vraiment plus en... Parce que c'était son mari, donc elle devait quand même avoir de l'amour pour lui. Donc pour arriver à tuer une personne avec ses propres mains, ça doit être horrible.
Oui. Et alors sur ce sujet plus global de la violence conjugale, ce qu'on appelle la violence conjugale, qui est essentiellement, dont les femmes sont essentiellement les victimes, parce qu'il y a des hommes battus, oui, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune femme de presque 18 ans, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Est-ce que tu arrives à comprendre le cheminement ? Beaucoup de femmes d'ailleurs mettent beaucoup de temps à le dire parce que c'est un sujet tabou aussi au sein du couple. Comment tu te positionnes toi en tant que jeune femme là-dessus ?
Bah moi je pense que du moment où ton mari te lève la main dessus, ça doit être complètement compliqué d'aller en parler parce que tu l'aimes et tu vas toujours lui trouver des excuses.
C'est une bonne remarque, c'est un des éléments qui fait que les femmes mettent tellement de temps et des fois une vie, hein, et on l'apprend après la mort de la personne, qu'il y avait ces problèmes-là. Néanmoins, est-ce qu'il y a une porte de sortie par rapport à ça, en dehors de tuer son mari, hein, mais qui peut aider les femmes, à ton avis ?
Il y a des associations.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut citer quelques noms d'associations, non ?
Bah, y a déjà SOS Femmes Battues, je crois, ça, c'est un numéro vert qui est disponible. Il y a beaucoup d'associations.
Il y a plusieurs associations dont j'ai plus les noms en tête, mais qui œuvrent pour l'égalité de la femme et qui prennent en compte ces genres de situations. Il y a la Marche des Femmes, il y a plein d'associations. Et de services sociaux d'ailleurs, on peut se retourner vers les services sociaux. Et...
On va demander à Ali, on a interrogé un peu Mélissa là-dessus, et Ali en tant que garçon, Ali qui est un grand romantique puisqu'il invite sa douce au restaurant régulièrement. Mmh. Voilà. Alors parle bien devant le micro, puis tu nous dis un peu ce que tu... Bah, tu découvres ce sujet-là comme Mélissa. Qu'est-ce que tu penses de ça toi, en tant que garçon à 17-18 ans, est-ce que... Tu trouves normal qu'on demande que cette femme soit graciée et n'aille pas en prison? Est-ce que tu trouves ça normal déjà?
Non, je trouve pas ça normal. Parce que, comme Mélissa a dit, une femme qui tue son homme, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage.
Ah, toi, tu trouves pas normal le fait qu'elle soit en prison?
Non, je trouve pas normal.
Ok, d'accord.
Parce que si un homme il lève sa main pour rien sur sa femme, et comme les collègues à côté qui ont dit qu'elle se faisait abattre, elle se faisait frapper et tout, bah non. Je trouve pas ça normal parce qu'un homme s'il lève la main sur la femme, ça veut dire que c'est pas un homme. Avec les femmes, on parle avec eux, on essaie de comprendre, on trouve des solutions, pas la peine de lever la main parce que les femmes, comme je dis tout le temps, c'est pas des animaux pour les taper. C'est comme des êtres humains, il faut les parler. Après, s'il y a des solutions, tant mieux. Et si on n'a pas, on peut en trouver des autres.
Alors, juste là, on est dans une radio, donc je voudrais donner quand même... On ne doit pas taper les animaux non plus, Ali. Hein. Donc on va avoir la Ligue de défense des animaux.
Moi, je voudrais reprendre on tape pas pour rien.
Ben, voilà.
Même si on est énervé, on tape pas. Il y a d'autres solutions. On tape jamais. Ni une femme, ni un homme, on tape pas. La violence, elle est à proscrire pour qu'on vive ensemble le mieux possible.
Bah oui.
Donc voilà, on va passer à un autre sujet. Merci pour votre éclairage. Alors là, je tombe sur, en page économie, un article intéressant sur une caissière de Carrefour Market. Vous voyez ce genre de petite supérette qui pullule dans les villes, qui a été renvoyée, licenciée la semaine dernière pour une erreur de caisse de 5,32€. Elle a été licenciée et suite à une petite procédure express, elle a été réintégrée hier. Est-ce que... ça dépeint quand même un certain climat de l'époque, ou est-ce que c'est arrivé de tout temps, ou est-ce que vous avez un avis là-dessus, quand même sur ce genre de 5,32€ licencié de manière express? Voilà, est-ce que vous voulez en parler deux secondes de ce cas-là?
Alors, juste là aussi, le contexte aussi, là, il est intéressant. Ça semble complètement hallucinant d'être licencié pour une somme comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme, qui, si je ne m'abuse, a été employée dans un cadre de contrat pour personnes handicapées, était à la base en CDI, devait être titularisée. Elle a eu la pression de la part de son employeur qui lui a juré que si elle était titularisée, les choses allaient se compliquer pour elle. Et cette faute pour laquelle on a voulu la licencier, on l'a licenciée en fait, a été simplement un prétexte. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça, il y a déjà eu des soucis avec la direction. Et visiblement, ce monsieur n'a pas supporté l'idée que cette femme trouve un emploi stable et a sauté visiblement sur l'occasion pour la mettre à la porte. Voilà.
Oui, là je pense qu'on est sur un abus de pouvoir assez important d'ailleurs, moins de 8 jours après, à les réintégrer, ce qui est quand même assez rare, hein, sans passer par tous les recours habituels. Effectivement, les grandes entreprises, c'est Carrefour.
Ouais.
Les grandes entreprises ont une obligation d'embauche des personnes handicapées. Il y a un pourcentage obligatoire, donc ce monsieur, il doit se plier à cette loi. Et effectivement, il a mis une pression folle sur cette personne qui fait une erreur, qui ne fait pas des erreurs de 5,32€, ce qui ne va pas mettre Carrefour en péril. Et cherche pas à discuter la violence en tous les cas, à mon avis, encore une fois, dont t'as fait... C'est une violence énorme que cette femme elle a subie. Et en même temps, elle a bien réagi, elle a été bien entourée. Je suis ravie d'apprendre que.
A priori, en lisant un peu plus l'article, Carrefour a décidé aussi de réintégrer cette personne parce qu'il y a eu une pétition en ligne de 3000 signatures en quelques jours qui demandait le boycott de la marque. Donc l'image un peu de la marque était écornée, donc ils se sont dit, attends, on va peut-être la réintégrer. Après, comment elle va être réintégrée? Est-ce que finalement son CDI, elle va le signer?
Ouais. Après, peut-être que le fait que cette personne soit réintégrée, très bien. Après, voilà, oui. Sous quelles conditions?
Exact.
Après, moi, ce que j'aimerais un petit peu, c'est que le responsable qui fait de la discrimination, là, quelque part, cette personne, elle a un handicap. Je ne sais pas quel est son handicap, mais elle est porteuse de handicap et elle est licenciée pour une faute grave qui n'est pas une faute grave. Ce monsieur, il doit répondre de ça, quoi. Absolument.
Alors, Ali, Mélissa, vous êtes élève en terminale CAP, donc vous faites beaucoup de stages depuis plusieurs années maintenant. Donc, on va dire que le monde du travail, ben, vous n'est pas étranger, puisque vous êtes rentré, vous, dans des petites entreprises, chez des restaurateurs, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez ça fréquent? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup quand même d'entrepreneurs qui traitent pas très bien leurs salariés? Ou c'est un cas à part et il ne faut pas faire généralité? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Moi, ça me rappelle le livre que vous nous aviez donné l'année dernière sur une fille, sur une femme qui était caissière et qui avait eu une histoire de vol qui n'était pas elle en fait, mais c'était un complot pour la virer.
Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des élèves qui se rappellent de ça? Oui, oui, non à l'indifférence, c'était une des nouvelles qui s'appelait Je suis une caissière ou je suis.
Je l'ai lu.
Effectivement, sur cette.
Des petits fascicules.
Voilà, ouais, ouais. Et oui, la réalité, c'était une nouvelle donc inventée, une fiction qui en phase complète avec la réalité. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Et comment ça se finissait, tu te rappelles?
Bah, à la fin, elle avait quand même été virée, ouais. Mais tout le monde. Elle n'avait jamais été là pour eux parce qu'elle voulait toujours être au top, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'eux, bah, ils étaient toujours là pour elle.
D'accord. Alors, on peut penser que ce genre d'événement, comme on dit sur la pétition, etc., soude un petit peu plus les équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tout accepter pour garder un CDI ou un CDD. Donc, c'est très intéressant. Ali, toi, est-ce que tu as déjà été confronté lors des stages? Alors, si c'est le cas, tu ne dis pas où, hein, on ne voudrait pas avoir de procès. Ou... mais est-ce que tu as eu un peu ce genre de...
Ouais.
Peut-être pas par rapport à toi, mais par rapport à des salariés qui étaient à côté de toi,
oui.
Qui étaient maltraités ou...
Voilà. Oui, oui, ça m'est arrivé au moment où... pour caisser les clients et tout. Et ben, j'avais vu qu'une collègue à moi... Et ben moi, vu que j'étais à côté, je faisais le barman. J'avais vu que ma collègue à moi, elle faisait les notes et tout. Et quand c'était le moment de payer, les clients, ils payaient la somme qu'ils devaient payer. Après, résultat, à la fin de service, vers 22h ou 23h, ben, quand ils faisaient les comptes ensemble, tout le temps, la patronne, elle voyait que la collègue, il manquait toujours 5 euros, 10 euros, 30 euros. Que l'autre collègue à côté, non, lui, il ne manquait jamais rien quand c'était à son...
sa caisse.
Voilà, sa caisse. Et ben, à force, la patronne, elle a eu marre. Et maintenant, c'est la patronne elle-même qu'elle encaisse. Elle laisse plus la collègue pour encaisser parce qu'il ne fait pas vraiment trop confiance. Parce que, vu qu'il n'y a pas des caméras, elle ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai vu, mais j'ai pas vu. Donc, j'ai pas envie.
D'accord. Voilà. Bah, là, c'est un petit peu différent parce qu'a priori, la patronne reste humaine puisqu'elle n'a pas eu de sanction, elle n'a pas émis de sanction vis-à-vis de cette collègue-là. Elle l'a gardée dans son service, elle a juste changé son poste.
Voilà.
D'accord, ok. Donc oui, il se passe des choses de toute manière dans les entreprises comme il se passe dans les établissements scolaires ou dans les hôpitaux. Oui, il y a toujours quelques dépassements. Un troisième sujet qui... alors. Vous aimez peut-être pas trop le football, mais c'est pas sur le sport, c'est plus au niveau de l'économie. On a appris hier que la ville de Nice, le club de Nice, pardon, s'appelle l'OGC Nice, l'an prochain aurait un actionnaire majoritaire, donc un nouvel actionnaire dans le club, qui allait investir des millions d'euros dans ce club-là pour en faire des grands d'Europe. Est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ces sommes d'argent astronomiques qu'on injecte dans le sport, et notamment dans le foot, en France, puisqu'on va parler de la France, avec le Paris Saint-Germain, avec Nice, peut-être bientôt Lyon ou Marseille, enfin déjà Lyon, Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien pour le sport français ou pas? On va commencer par les jeunes, je pense, sur cette question-là. Ouais, au niveau du sport, tout cet argent. Ce serait un prince saoudien hein, qui serait majoritaire, qui se rachèterait le club de Nice. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Franchement, moi, comment je le pense, c'est que donner toute cette somme d'argent pour des clubs de foot, ben, je ne sais pas trop sur ça. Parce qu'on met des millions et des millions et des millions, ben, résultat, soit on gagne, soit on perd tout. Ben, au lieu de mettre toute cette somme pour ces joueurs de foot, je préfère de prendre toute cette somme-là et la partager avec les gens qui, exemple, ils sont malades ou aider les hôpitaux ou aider des gens qui n'arrivent pas à faire le moins. Enfin, aider vraiment des gens qui sont vraiment en difficulté au lieu de mettre toute cette somme-là dans ces clubs-là.
C'est le moment où on peut préciser à nos auditeurs que nous n'avons pas choisi Ali sur critère, parce que sa réponse pour Mélissa, et là, c'est elle qui sont proposées pour animer, mais je pense qu'on est d'accord avec ce constat-là. Cette indécence qui veut qu'on met des millions d'euros sur 11 bourrins qui courent après un ballon, alors que dans le même temps, les hôpitaux publics, voilà, il y a des problèmes au niveau santé, au niveau, tu dis, aide aux plus pauvres.
Et puis voilà. Moi, je pense que le sport, c'est quelque chose de fédérateur. Quel que soit le sport, c'est fédérateur, pas que dans l'esprit de compétition d'ailleurs, hein, pas que dans l'esprit représentatif d'une nation ou d'une ville, mais c'est fédérateur. Et en effectivement injectant ces sommes, comme tu dis, indécentes, on va à l'opposé de ce que devrait être le sport. On ne peut pas fédérer quand on a des joueurs qui touchent des millions et des supporters qui sont... au bord de l'étouffement financier, quoi.
Alors, tu dis ça, et c'est ce qui est terrible, c'est que le foot à la base est un sport populaire avec des joueurs dans les années 60-70 qui avaient des salaires corrects mais qui n'étaient pas non plus énormes. On a vu le témoignage de quelqu'un qui s'est bien rattrapé depuis, mais Michel Platini, qui disait qu'il était un salaire d'un cadre supérieur, quoi, à l'époque. Et à l'époque, les billets pour assister au match étaient vraiment très peu chers. Le football s'est embourgeoisé, c'est-à-dire que maintenant les stars sont surpayées, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne pourront plus aller au stade. C'est le cas en Angleterre où pour se payer un billet, il faut débourser quasiment 100 livres, ce qui est l'équivalent de 120 euros, je crois, pour une place. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus que la classe supérieure ou classe moyenne supérieure qui peut aller au stade. Donc le foot se coupe des classes populaires, c'est quand même
super embêtant. Et le sport certaines vedettes du sport sont surpayées et en plus médiatiquement ces gens sont critiquables sur quasiment chacune de leurs interventions orales au moins quoi. On a vu Valbuena, on a vu Benzema.
Ah, il a rien fait Valbuena.
Non mais enfin je veux dire l'idée de toutes ces affaires, il y a autant d'affaires dans le sport que ce qu'il y en a en politique.
Oui, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le sport, notamment dans le foot, ce qui fait la valeur d'un joueur, entre guillemets, des gens parlent de transfert, comme s'il s'agissait d'esclaves ou de têtes de bétail, c'est la popularité, quoi. Et à un moment donné, si les gens arrivent à un point de ne pas pouvoir se payer les billets pour un match, il faut peut-être être capable aussi de dire non. Si ces gens-là aussi vivent dans des bulles complètement coupées du reste de la société, c'est parce qu'ils fascinent des gens qui n'ont pas d'argent. Et je crois que c'est tout le problème aussi d'une société dans laquelle les gens sont obnubilés par la réussite et surtout par l'argent. Et si les gens effectivement ne peuvent plus continuer à être fans de ce sport-là en allant voir des matchs, et ben peut-être qu'il faut arrêter. C'est comme le Tour de France, chaque année il y a des histoires de dopage, on se plaint. Ben oui, ben arrêtez d'aller voir les gens au bord des routes, et puis quand il n'y aura plus personne pour les voir passer, peut-être qu'ils se poseront les bonnes questions. Arrêtez d'aller encenser les joueurs, d'aller dépenser son argent pour des gens qui sont souvent méprisants, qui ont été...
Et de les regarder. Avec fascination.
Et peut-être que du coup, la valeur de ces joueurs-là baissera aussi, quoi. Parce que hormis les sponsors, ce qui explique les prix des transferts, c'est entre autres la popularité d'un joueur. Ben, s'ils sont plus populaires, peut-être que les choses se régleront, quoi. Et la popularité, c'est la société qui en est à la base.
On voit que vous êtes anti-foot, c'est très bien.
Non, pas forcément.
Alors, ok. Un dernier sujet, parce qu'après, on va avoir un flash mob David Guetta dans le hall du lycée. D'accord. Ça va faire beaucoup de bruit.
David Guetta,
on pourra en parler. Alors, juste pour vous présenter, si vous ne la connaissez pas, cette revue qui s'appelle La Revue 6 mois, c'est une revue de photojournalisme et on recevra la rédactrice en chef de ce magazine dans quelques semaines. Ce magazine nous fait un reportage sur un pays qui s'appelle la Tchétchénie. Je sais pas si c'est un pays que vous connaissez.
Oui.
Voilà. Alors, ça se passe en Tchétchénie, ça pourrait être dans d'autres pays, hein. C'est pas pour critiquer forcément ce pays-là. C'est un reportage sur Louisa, une jeune fille de 17 ans, qui est mariée de force à un cadre du ministère, un ami du pouvoir, un ami du président, qui a 47 ans. Le reportage, alors on est à la radio, c'est un peu compliqué de parler de photos, mais c'est vraiment, ça fait froid dans le dos, hein. On voit une jolie jeune fille de 17 ans dans un état de tristesse assez profonde, puisqu'elle n'a vraiment pas choisi, elle l'a connue, je crois, la veille du mariage. On la voit pleurer, on la voit, et donc on voit son mari, hein, qui lui est fier, et on apprend que le président de la Tchétchénie était présent à ce mariage pour mettre encore plus de pression sur la jeune fille et la vie qu'il attendait, quoi. Je sais pas si on peut en parler deux secondes, ça rejoint un petit peu, hein, le premier sujet sur les femmes battues et sur cette impossibilité pour les femmes dans certains pays et même dans le nôtre de s'émanciper de l'homme et de la violence, quoi. C'est une violence symbolique qui est quand même assez, assez terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, Ali, tu disais que la Tchétchénie, ça te parle ?
Oui.
Tu peux nous en dire deux mots sur ton expérience T'es déjà allé en Tchétchénie ?
Non, j'ai des potes de Tchétchénie qui m'ont dit comment ça se passe là-bas.
D'accord. On connaît peu finalement. Est-ce que c'est une société qui est similaire à la France ?
Pas
des
tout.
Habitudes, non ? Alors,
pas
est-ce que tout. Tu pourrais nous donner deux, trois différences ?
Comme la différence, exemple, c'est qu'ici on a l'égalité, liberté, égalité, fraternité, mais là-bas on n'a pas ça déjà. Là-bas, on se comprend en deux avec la violence, avec la personne qui a plus de pouvoir, avec la personne qui a plus de droits que les autres gens. Et les gens, ils n'ont pas le droit de dire « Nous, on ne veut pas comme ça » parce que sinon, ils allaient en prendre plein la gueule.
D'accord.
Mmh. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que comparé à la France, c'est que la France, même si on ne veut pas, on a le droit de s'exprimer, que là-bas, on n'a pas le droit de ça. Là-bas, c'est interdit. C'est comme la loi est dit, il faut faire. Si vous aimez pas,
changez de pays.
Voilà quoi, changez de pays.
Changez de pays. Et puis, alors, je connais pas précisément la Tchétchénie, mais ce que tu dis fait penser à d'autres pays où, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez être emprisonné. Vous avez des pressions, des violences aussi, hein, policières,
ouais.
Vis-à-vis des familles, etc.
Oui.
Donc voilà, là, tu nous dépeins un tableau de la Tchétchénie qui fait pas forcément envie. Et ben, c'est ce que le reportage 6 mois nous donne comme information. Je pense qu'on peut le dire, vous êtes un petit couple, vous.
Mm-hmm.
Quand vous voyez ça, une jeune fille qui a exactement ton âge, Mélissa, 17 ans, tu arrives à te mettre à ta place et imaginer ça. Du jour au lendemain, tes parents qui disent voilà ton mari, il a 47 ans.
Ça fait froid dans le dos.
Ça fait froid dans le dos, ouais.
Ah, moi, j'aurais peur. Hein. C'est comme si on se marie avec notre propre père. Parce que mon père, il a 47 ans. C'est comme si je me marie avec mon père.
Oui, c'est assez, assez terrible. Monsieur Sayori ? Est-ce que
vous
aviez entendu parler de ce genre de...
Oui, ben c'est un cas qui illustre malheureusement la situation de beaucoup de femmes dans le monde. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a des pays dans lesquels, pour une femme, le fait de conduire, parce que c'est interdit pour elle, c'est risquer sa vie au quotidien, avec des jugements, enfin des traitements qui sont particulièrement abominables. Alors après, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en France, même si tout va pas bien, on a au moins un cadre. On a un cadre qui, en théorie, au maximum, essaie de protéger les citoyens. C'est pas le cas de partout, quoi. Et c'est parfois, même quand des choses ne fonctionnent pas, on a au moins des gens qui ont des chances qui leur sont proposées dans certains pays libres. Qu'on ne leur proposera jamais ailleurs. C'est comme pour beaucoup de choses, quoi. Alors le problème, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté-là aussi ? Et je crois que pour le cas de ces femmes, de ce cas en particulier, il faut quand même rester vigilant. C'est pas parce que des choses, des droits sont acquis qu'ils le sont à jamais. Il faut du coup être vigilant par rapport à la question de la liberté qu'on nous donne, ce qu'on en fait, parce que si on s'en sert pas, peut-être qu'un jour on décidera de la réduire, quoi.
Ah oui, ça c'est bien.
Moi, je viens de survoler un peu l'article. Ouais. En fait, il y a plein de problématiques dans cette situation-là. Il y a effectivement le droit des femmes, il y a le droit des enfants. Elle a 17 ans, hein. Elle est mineure, il y a le droit des enfants. Il y a visiblement, ce monsieur était déjà marié, donc il y a, dans un pays où la polygamie n'est pas autorisée, mais où lui voudrait réformer, donc on dépasse la loi, on passe au-dessus de la loi dans ce mariage, puisque c'est pas autorisé et que, si j'ai bien compris l'article, lui, il est déjà marié. On fait intervenir le pouvoir en place pour asseoir effectivement ce pouvoir qu'on a sur les femmes, sur les enfants, sur les lois. C'est tout simplement monstrueux, ce qui peut être plaisant dans la réponse qu'il y a, c'est qu'il y a des tas de jeunes filles qui réagissent, qui sont aidées de, qui médiatisent cette histoire, qui sont aidées de journalistes, puisque quand on parle, j'ai lu un peu l'article, il parle de la puberté précoce pour justifier qu'une jeune fille de 17 ans est mariée à un homme de 47 ans. Il parle d'une puberté précoce dans les pays du Caucase et que les femmes de 27 ans sont ridées comme des femmes de 50 ans pourraient l'être ailleurs.
On peut épouser une fille à 14 ans puisque en fait elle est déjà, selon leur argumentaire, c'est ça en fait.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ces jeunes femmes, elles se sont prises en photo et sous le titre femmes ridées, elles ont 20 ans, 27 ans, elles sont pas ridées quoi. Il y a une réponse. Il y a des gens qui commencent à se mobiliser sur ces thèmes-là. Je crois que tous les thèmes, à part peut-être le foot et encore que sûrement, tous les thèmes qu'on a abordés là, c'est quand même important de toujours avoir le regard sur l'autre, de toujours regarder l'autre. Madame Sauvage, la situation des femmes battues, cette jeune fille qui n'a pas le choix de sa vie.
Et le foot aussi. Hein,
le foot, oui. Ouais.
Par rapport à... Nous, citoyens, est-ce qu'on peut accepter ça ou est-ce qu'au moment où on arrête ? Juste, tu disais la réaction des jeunes filles qui étaient bien. C'est le seul truc positif que je mettrais sur Internet ou sur Facebook. On l'a vu lors des printemps arabes, des révolutions arabes, des pays du Maghreb, etc., ou en Égypte, les jeunes qui essayaient de s'émanciper, que l'information passait très très bien sur les cas de maltraitance par Facebook. C'est-à-dire, en fait, les jeunes arrivaient à alerter. Et je vais vous dire, hein, ça fait directement le lien avec un autre reportage dont je ne voulais pas forcément parler, mais c'est quand même très très intéressant, d'une jeune femme qui s'appelle Nida Badouan, qui est palestinienne, et qui en fait, donc c'est une jeune femme qui a une petite vingtaine d'années, je n'ai plus l'âge exact, elle a 28 ans, elle vit recluse chez elle depuis décembre 2013, dans une chambre de 9 mètres carrés, puisqu'en fait, elle est sortie sans le voile, sans son voile en novembre 2013 dans les rues, et elle s'est fait battre quasiment à mort. Et quand elle est rentrée, c'était déjà une artiste, hein, elle avait fait des études d'art, etc. Et quand elle est rentrée chez elle, ce jour-là, elle a dit « Je ne ressortirai plus de chez moi, dans cette société-là. Je vais me mettre en scène dans ma chambre, qui sera mon dernier espace de liberté, et je communiquerai via les réseaux avec des photos. » Voilà, elle reconstitue des tableaux antiques, voilà. Là, c'est sa mère qui lui donne... Elle vit chez ses parents. Hein. Elle est avec ses parents, mais dans sa chambre de 9 mètres carrés. Sa mère lui donne des corvées de patates, des corvées qu'elle trouve insupportables parce que c'est des quantités astronomiques de patates à éplucher. Elle ne fait que ça. Donc là, elle se met en scène en train de pleurer sur ses légumes. Une scène de maquillage. Elle me dit, j'ai mis 2 mois avant d'arriver à trouver le bon cadrage. Donc, c'est une artiste qui est recluse chez elle. Donc, désolé, c'est un peu le hasard de l'information. On parle beaucoup des femmes et des femmes maltraitées. Pour moi, ça reste un sujet hyper important puisqu'on a évolué sur beaucoup de sujets et on dit toujours oui, les femmes sont bien protégées dans nos sociétés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et dans ces sociétés-là, encore plus, je dirais. Elle est encore enfermée chez elle, mais c'est un auto-enfermement puisqu'elle ne veut plus sortir dans la rue tant que les libertés faites aux femmes ne sont pas améliorées, quoi. Donc c'est juste pour faire le lien et elle communique beaucoup sur Facebook. On va finir juste avec une. On va commencer par tous les deux parce que ça vous laisse le temps de réfléchir. Je vais vous demander sur les 6 derniers mois une information qui vous a percuté. Alors tous les quatre, bien sûr, on se doute bien que les attentats commis vont revenir parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Ça peut être une autre information aussi. Est-ce que vous pouvez choisir une information que vous... Voilà, ça peut être même local, hein, quelque chose qui vous a... Vous avez appris quelque chose et ça vous a intéressé, vous avez voulu en savoir plus. Est-ce qu'on peut commencer avec M. Sayuri?
Elan Kurdi, c'est ce petit garçon dont on a retrouvé le corps sur une plage de Turquie, qui tentait de rejoindre sa famille. Et ce qui m'a marqué, c'est bien sûr la photo que beaucoup de gens ont vue, ce petit corps, que des gens ont tenté de discréditer en racontant qu'il s'agissait d'un montage, tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas la réalité. Mais ce qui m'a marqué, c'est pas seulement la photo, c'est la vitesse à laquelle cette histoire-là est tombée dans les limbes de l'oubli. Et voilà. Et d'ailleurs, ça m'avait, du coup, il y a quelques mois, donné envie de lui écrire un petit texte que j'ai fait, que j'ai eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises. Et ce qui m'a marqué, c'est les gens qui, à la fin de la soirée, venaient me dire « Ah oui, maintenant je me souviens ». Alors que c'était il y a 3 mois et que c'était quelque chose qui est juste inoubliable, quoi. Et il disait ça sans malice, hein, sans. C'était plutôt sympa. Il venait me remercier, parfois me féliciter. Mais ah oui, je me souviens. Et ça c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, quoi. J'ai eu l'impression finalement que si j'avais abordé une histoire sur une course de mobylette, oui. Il y aurait eu la même réaction, quoi. Mmh. Et ça, c'est, je me dis, waouh. Je leur jette pas la pierre.
Mais on est pareil, hein.
Quand t'as dit
le nom de ce petit-là, je fais, ah, c'est peut-être cet enfant, mais je n'étais pas sûr.
Mais c'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on est tellement à la fois bombardé d'informations, je crache pas sur les médias, loin de là, mais surtout où on est dans un tel chaos ambiant qu'on arrive même plus à faire la différence. Staline, il disait, la mort d'un homme, c'est une tragédie. La mort de millions d'hommes devient une statistique. J'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Voilà.
Madame Jubin ?
Moi, je vais partir sur les médias aussi. Je vais être beaucoup plus légère. Mais, bon, alors bien sûr, tous les événements de l'année 2015 ont été des moments marquants. Mais justement, le rapport aux médias en ont fait des moments, quelque part, qui nous appartiennent pas vraiment par l'ultra-médiatisation, les informations qui arrivent avant d'avoir été confirmées. Enfin voilà, ça sera pas ça que je retiendrai. Je retiendrai, je saurais pas vous dire quel jour, un JT de 20h, où à la fin du JT, je me suis dit, mais je devrais regarder le JT plus souvent. Pourtant, je le regarde assez régulièrement. Il n'y a jamais... Le JT, c'est toujours... quasiment l'antichambre de la déprime, de la dépression, c'est toujours du négatif. Et ce jour-là, j'ai vu un JT complet positif. Il n'y avait pas d'informations catastrophiques ce jour-là. Il avait été construit sur les nouveaux entrepreneurs solidaires, sur les nouvelles alternatives à la culture, notamment la culture paysanne, et comment on pouvait intervenir sur vraiment l'environnement avec une nouvelle sorte de culture qui pourrait être étendue au pays, par exemple en manque d'eau considérable. Enfin, c'était que des choses passionnantes. Et voilà, donc du coup je me dis, peut-être que les choses sont en train de changer, peut-être que tout doucement peut-être qu'on a un peu touché le fond quand même. Je pense qu'on l'a touché depuis, on peut encore le toucher plus, mais qu'on l'a touché, et que du coup ça va mobiliser des nouvelles énergies pour essayer de repartir sur quelque chose de plus humain.
Alors, je voulais réagir sur aucune de vos infos, mais là quand même ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tout est une question de regard, en fait. En gros, le monde est beau, le monde est puissant, les gens sont dynamiques, sont positifs, ça c'est la réalité, il n'y a pas à tergiverser.
Oui.
L'humain est plein de ressources, tout ça. Ce que nous dit la télé, ce que nous dit Internet à longueur de temps, c'est négatif.
Voilà, c'est
noir.
C'est ça que j'ai voulu dire, ce jour-là.
Mais ce jour-là, la vérité était voilà. Mise.
Et ce jour-là, derrière, on partait sur une émission où on découvrait des paysages hallucinants à côté de chez nous, et des gens qui vivaient dans ces endroits de façon très conviviale et très chaleureuse, et dans un partage. Ce soir-là, moi, j'ai eu l'impression que c'était une des rares fois où je regardais une télé positive. Voilà. Où je suis allée me coucher en me disant, bah, chouette, la vie, effectivement.
J'ai vu que le lendemain, tu étais beaucoup plus positive. C'est très bien. Mélissa, est-ce que toi, il y a une info dont tu te rappelles?
Ouais. Alors, vas-y, tu peux te rapprocher.
Ah, oui.
C'était, y avait un moment à la télé, c'était un journal, et il y avait une femme qui expliquait ce qu'elle avait vécu. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand elle disait qu'elle était allongée sous plein de corps morts et qu'elle était obligée de faire semblant d'être morte pour ne pas se faire tuer, que eux à côté, ils continuent à tirer dans les corps déjà morts. Ça m'a traumatisé. Ça.
Alors, ça t'a traumatisé. Et pour aller au-delà du traumatisme, comment tu réagis par rapport à ça ? Ce que tu viens de nous dire là, ça prouve quoi en fait ? Ça prouve que les personnes...
Ça prouve que c'est con.
C'est au-delà de con.
C'est pas humain.
Voilà, c'est le côté barbarie, hein. C'est la barbarie, c'est-à-dire qu'ils sont à l'état animal. Alors, on a le recul maintenant, on sait, alors sans les dédouaner loin de là, beaucoup étaient sous l'emprise de produits et puis d'une idéologie folle qui fait qu'ils ne sont plus les êtres humains qu'ils étaient il y a encore 4-5 ans sur le territoire français, puisque la plupart étaient de nationalité française. D'accord, ça t'a marqué. Ouais. D'être obligé de cet instinct de survie aussi, hein, de cette jeune femme qui dit pour ne pas être shootée, malgré le fait qu'il continue à shooter, j'étais obligé de faire la morte au milieu des corps qui, eux, étaient vraiment morts. C'est sûr, se construire quand on est jeune à partir de ces images-là, encore vous êtes sauvé des eaux, vous avez 17-18 ans, donc une capacité à analyser, je pense aux plus jeunes, c'est compliqué de voir ça aussi.
Mais il y avait quand même quelque chose qui était beau là-dedans, c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé, qu'il y avait une femme, elle était pendue à la fenêtre en essayant de sortir du Bataclan, et que malgré la panique, il y a quand même une autre femme qui est venue l'aider, qui ne l'a pas laissée dans...
D'accord, ok. Ouais. L'entraide. Bon, non, on parlait
tout à l'heure. Il y avait quand même l'entraide.
On l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, sur ces hébergements, même si ça a été un peu surjoué peut-être. Enfin, surjoué, non. Si vous êtes en difficulté, venez sonner à la maison. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, etc. Les digicodes qui circulaient, les noms de rue. Ça, c'est aussi le plus positif des réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment, en période de... Alors, j'aime pas le terme de guerre parce que c'est pas une guerre, mais période de grand conflit, savoir que ces réseaux peuvent aider... pour se protéger, c'est quand même plaisant.
Ils recherchaient aussi les personnes qui avaient disparu.
Oui, aussi, sur les avis de recherche. Ali, tu peux reprendre le micro un peu vers toi. Il y a une information, puis on finira avec Ali. Merci de nous suivre sur Bouvet FM.
Bon, ben, moi, pour tout ce que j'ai vu, il n'y a qu'une chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'est que j'avais vu pour... l'équipe qu'ils étaient là-bas, là. J'ai oublié comment on appelle, mais c'est un pays là-bas où ils viennent nous...
La Grèce ?
Voilà.
Sur les îles Lesbos ?
Voilà. Merci beaucoup. C'est là, j'avais vu qu'en fait, l'armée qu'ils avaient, il y avait peu de adultes, et j'avais vu qu'ils prenaient les enfants.
En Syrie ?
Ah, voilà.
La Syrie. Ah, pardon, ouais. La Syrie. C'est l'arrivée des...
La Syrie. Et j'avais vu que les adultes, ils étaient peu, ils n'étaient pas comme avant, peu nombreux. Et là, j'avais vu qu'ils ont pris les enfants. Ils apprenaient les enfants à les endurcir. Ils leur faisaient comprendre que la vie, c'est comme ça. Comme nous, on dit, c'est comme ça. Ils faisaient un lavage de cerveau, en fait. Et les enfants, en fait, ils se laissaient beaucoup emporter. Vu qu'ils avaient une arme sur eux, ils ont dit, ah ouais, c'est trop chouette et tout. Mais sauf que eux, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'ils font, c'est pas du tout comme ça. Les enfants, ils doivent pas faire ça, les hommes non plus, parce que ça sert à rien ce qu'ils font. C'est pas une vie, ça c'est juste. Comment vous dire, c'est. Je sais pas si. Peut-être c'est un miracle qu'ils ont touché la tête, et peut-être c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça.
C'est une secte, c'est un embrigadement, voilà. En fait, c'est ça. C'est qu'on les pousse à faire des choses qui sont dans de la mort, en fait.
Et bah, eux,
c'est un suicide.
Voilà. Et eux, la mort, ils la voyaient pas dans les yeux. Pour eux, ça, c'est un jeu.
Bien
ils
sûr.
Se laissent pour vous emporter.
Les adultes dont tu parles qui embrigadent ces enfants, ils ont bien compris que le cerveau d'un enfant, il est malléable, qu'on en fait ce qu'on veut. Et qu'on lui donne les convictions qu'on a envie qu'il ait, et qu'on en fait effectivement potentiellement un tireur, et que l'enfant, il n'a pas le recul nécessaire sur la vie, la mort, pour dire non, ça je dois pas le faire, ça je dois le faire. Si son seul mode éducatif c'est celui-là, effectivement, l'enfant deviendra une bête à tuer sans scrupule, parce que pas d'autre choix, et puis pas d'autre père dans la vie, quoi, que celui-là, celui de tu tues les gens qui ne font pas partie des gens
comme nous.
comme nous. Voilà.
C'est le pire qu'il puisse faire, puisqu'un adulte a toujours la possibilité, avec son outil de décryptage, de sauver de ça. Un enfant qui, dès le plus jeune âge, ça va être très très dur. Il faudra des années. La plupart mourront même avec cette conviction-là. Donc, c'est djihadiste. Enfin, c'est je sais pas comment on peut les. C'est terroriste. C'est sans son prix à. Au pire public, c'est que là, nous, on n'a pas du tout, on peut rien faire pour désembrigader, surtout dans ces territoires-là, des enfants, qui seront les plus violents des soldats d'ailleurs.
Bien sûr.
Parce qu'ils auront appris tout jeune à tuer de sang-froid. Alors, tout jeune, ils vont pas vieillir.
Ils vont pas non,
mourir
probablement
vieux.
Probablement pas, mais.
Mais c'est quand même, c'est terrible, quoi. Bon, merci à tous les quatre.
Merci beaucoup.
Cette émission très très riche, et puis on se retrouve bientôt.